RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Bonjour à tous et au programme, eh bien vous entendrez des polyamoureux, des hommes et des femmes à la sexualité particulièrement libérée, avec notamment notre sociologue préférée Jeannine Mossulavo. Et on commence avec Elisa Brune. Elle va nous parler de la perception du corps de l'homme par les femmes.
Alors premièrement, beaucoup de femmes ont du mal à parler du corps des hommes parce que elles sont un peu gênées. Il y a quelque chose de très très lourd et prégnant dans l'éducation et la culture sur l'érotisation du corps des hommes. En fait, elle est virtuellement absente. C'est-à-dire que il y a un énorme discours sur l'érotisme et la sexualité, mais c'est presque toujours le corps des femmes qui est montré, mis en valeur. Et les femmes qui sont conscientes de leur vie sexuelle, de leur vie érotique, sont beaucoup plus axées sur le désir qu'on peut avoir pour elles que sur le désir qu'elles peuvent avoir de l'autre. Donc, autrement dit, une femme érotise quelqu'un qui la désire.
Oui, oui, oui. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose de qui fonctionne parce que c'est comme ça que fonctionne la psyché féminine, ou est-ce que c'est au fond une question de culture? Toujours la grande.
Bah oui. Évidemment, on ne saura jamais le fin mot de cette histoire, puisqu'on ne peut pas faire.
Mais si vous êtes journaliste scientifique, vous allez pouvoir nous donner la réponse, Elisa Brune.
Non, puisque culture, il y a toujours, quels que soient les sujets qu'on prend, on ne peut pas faire abstraction de la culture. Mais dans les petites enquêtes que je fais dans la mesure de mes moyens, par exemple, je constate que l'attrait des filles pour le corps des garçons se manifeste. Très tôt. Quand on fouille un peu les souvenirs, on les entend raconter des histoires de l'école primaire, la maternelle, où elles avaient vraiment très envie de voir ce qu'il y avait là, qu'elles n'avaient pas, etc.
Donc on peut penser que c'est censuré ensuite.
Moi, je pense vraiment qu'il y a un effet de refoulement et d'inhibition de la part de l'éducation, de la culture en général, qui fait que les femmes sont invitées à érotiser d'autres choses et prioritairement la partie sentimentale et affective.
Mais là où je suis assez d'accord avec vous, parce que moi je connais bien les questions de refoulement, et on a souvent le retour du refoulé, et on entend beaucoup de femmes qui trouvent par exemple le sexe de l'homme laid,
oui,
et ou dégoûtant, ou, et ça c'est vraiment du retour de refoulé, parce,
oui,
que sinon on comprend rien. Donc je pense qu'en effet les femmes ne s'interdisent de regarder un sexe d'homme en érection et d'oser dire que c'est beau et que c'est attirant.
Voilà, donc l'inhibition est si bien faite qu'il y a une auto-mutilation du désir, un auto-dénigrement de ce qui attire, parce que si après on passe à des tests en labo avec des stimuli visuels du genre pornographique et qu'on teste les réactions physiologiques des femmes, on voit que évidemment ça réagit extrêmement vite et extrêmement
clairement
oui, aux stimuli explicitement sexuelle, de manière d'ailleurs tout à fait équivalente à celle des hommes. Par contre, elles vont dire que ça ne les intéresse pas, ou même que ça les dégoûte. Le psychique ne dit pas la même chose que le corps. Il y a une fracture très très bien organisée chez les femmes entre ce qu'elles disent et pensent et ce qu'elles ressentent.
Et alors, ce qui est aussi assez frappant quand on regarde, par exemple, des femmes qui assistent à un spectacle de gogo danseurs, elles rigolent beaucoup. On a l'impression qu'au fond, le rire est une sorte de soupape pour cacher une éventuelle excitation ou un éventuel désir, non?
Oui, puisqu'on est en groupe et puisqu'il y a cette espèce de chape sociale de la bienséance ou de ce qui est convenable, on va s'en tirer avec des grands éclats de rire et des minauderies. Mais au fond, si on était tout à fait libre, si on était seul en face du garçon ou avec un stimuli vidéo, c'est encore plus net puisqu'on n'a même pas son regard à lui, c'est qu'au fond, c'est très excitant. Et ça éveille l'excitation sexuelle directement. Mais il faut beaucoup, beaucoup de levées de verrous et de barrières pour en arriver à laisser s'exprimer cette chose-là. Et ce n'est souvent que dans le tout dernier stade de l'excitation sexuelle, donc c'est-à-dire dans la relation sexuelle juste avant le paroxysme, que enfin la vérité éclate et qu'on entend des phrases comme, enfin je vais pas les dire ici peut-être, mais des phrases très explicites où les femmes expriment qu'elles aiment ça, qu'elles en veulent et que c'est très physique, c'est lié au corps, c'est pas le prince charmant, c'est du corps.
Mais Elisa Brune, vous pensez que ça évolue, que les femmes se libèrent quand même bien, ou est-ce que c'est finalement très lent?
Alors, heureusement, je pense que ça évolue, que quand je parle avec des femmes de 20-25 ans, j'ai des réactions beaucoup plus directes, nettes, franches, du même ordre de quelqu'un qui parlerait de la nourriture ou des fringues qu'elle aime, ou vraiment quelque chose qui a trait à l'appétit, à la gourmandise, et elles le disent. Tandis que les femmes de la génération au-dessus, leurs mères, sont toujours dans une sorte de dissimulation ou de vitrine, enfin de façade issue de l'éducation. Et puis il faut bien dire qu'on manque de stimuli, même si le statut des femmes a bien changé, les mœurs ont bien changé, le corps de l'homme est toujours très peu présent. Que ce soit dans l'iconographie érotique, d'ailleurs il n'y est presque pas, sauf dans le monde gay bien entendu, que ce soit dans la publicité, que ce soit au cinéma, voir un homme nu, c'est infiniment plus rare que de voir une femme nue.
Dans la publicité, on se sert pratiquement pas du corps de l'homme pour vendre un produit, c'est vrai?
Pratiquement pas.
Oui.
Dans le cinéma, quand un homme est nu, c'est plus souvent banal que érotisé, et quand c'est érotisé, éventuellement, on le verra nu, mais on le verra pas en érection. Ça, c'est hors de question, puisque ça tombe immédiatement dans le registre X. Et donc, les femmes sont un peu au régime pain sec. Elles peuvent pas érotiser le corps de l'homme puisqu'elles n'ont pas de stimuli. On peut très bien érotiser la nourriture puisqu'on voit tout le temps
bien sûr,
les gâteaux en vitrine.
C'est le serpent qui se mord la queue,
oui.
Si je peux me permettre cette allégorie.
Oui, tout à fait. Donc, les femmes manquent d'objets du désir et ne peuvent pas construire ce désir puisque l'objet n'est pas présent à leur regard. Alors, c'est seulement dans la relation effective avec un partenaire que si ça se met bien, elles peuvent en venir à vraiment exprimer ce désir.
En même temps, on voit de plus en plus de femmes qui regardent des films pornographiques, donc on voit bien quand même qu'il y a une évolution. Les femmes s'autorisent plus maintenant à regarder des bon, parce que dans les films pornographiques, on les voit, les
oui,
sexes en érection.
Oui, là, heureusement, on les voit. Il y a quand même un endroit où on peut les voir.
Absolument. Et il paraît que les calendriers des rugbyman, des sportifs, enfin en tout cas ces calendriers d'hommes pratiquement nus,
oui.
Sont de plus en plus aussi achetés par les femmes.
Donc, ils ont un succès grandissant, oui, oui. Bien évidemment, c'est là qu'on voit que ce désir frémissant, il est là sous le couvercle. Hein,
la chape de plomb est en train de baisser d'épaisseur. Quoi.
Voilà, le seuil s'abaisse et donc les femmes vont ou sont en train de commencer à pouvoir dire leur désir. C'est tout à fait réjouissant. Mais ce qu'on attend, c'est qu'elles participent à ce coming out, en quelque sorte, du corps masculin. Et là, curieusement, elles sont rares à oser le faire. Elles commencent à pouvoir assumer leur désir dans leur vie, mais de là à prendre le drapeau et à partir en campagne pour...
On veut des hommes nus, hein.
Voilà, il faudrait faire des manifs.
Oui, oui, oui. Ouais,
Et donc on attend les artistes qui vont peindre et photographier le corps nu. Il y a une exposition sur le nu masculin en ce moment à Orsay, et vous observerez avec surprise que sur les 180 artistes représentés, il y a 4 femmes.
Oui, bien sûr. Oui. On sent que ça bouge un tout petit peu, mais c'est pas
timide.
Vraiment encore
c'est
en érection, en tout cas.
Or, c'est un sujet beaucoup plus important qu'il n'en a l'air, je crois. Parce que, comment dire, diaboliser ou discréditer l'érection, comme on l'a fait jusqu'ici, en ne la montrant jamais que dans des lieux réputés glauques, c'est vraiment rendre la chose perverse. Parce que les femmes sont forcément honteuses du désir qu'elles auraient de cette chose, et les hommes se sentent forcément coupables de cette érection qu'il ne faut surtout pas montrer. Et alors on s'étonne qu'on est dans une société où on a le choix qu'entre l'angélisme ou la pornographie. Mais moi je trouve qu'on manque de pornographie au quotidien. C'est dans les films courants qu'il faudrait montrer des sexes parce qu'ils sont dans la vie courante aussi.
Oui, oui, sans aller jusqu'à montrer évidemment le coït, mais enfin bon, montrer un sexe en érection dans un film, ça serait pas quelque chose de diabolique.
Oui, oui. Ça ferait du bien à tout le monde.
Faut-il encore que l'acteur y arrive? C'est peut-être là où est le problème.
Ah, est-ce un problème technique?
Bonjour David.
Bonjour Brigitte, bonjour Elisa. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question à poser à Lisa, en fait. Je voulais savoir si les femmes, en règle générale, préféraient les hommes avec le sexe rasé ou alors directement avec des poils. Donc, je me posais la question. Ça fait un petit moment que ça trotte. Et donc, vu que vous avez votre invité, je voulais lui poser cette question-là.
Eh bien, c'est une bonne question, mais je ne pourrais pas vous donner la réponse parce qu'il n'y a pas des femmes en général, il n'y a que des femmes en particulier. Et d'accord. Comme pour la plupart des choses qui ont trait au désir, le profil de chaque être humain est très spécifique. Alors, il peut y avoir des phénomènes de mode, c'est-à-dire des sortes de conventions temporaires qui font office de modèle et auxquelles un nombre croissant de personnes se rallient. Alors, ça a été vrai pour les sexes rasés chez les femmes qui ont été de plus en plus à la mode parce qu'ils sont représentés de cette façon-là.
Oui, le cinéma, c'est très net. Hein. On a vraiment un pourcentage, une grande majorité d'hommes qui préfèrent les sexes de femmes rasées, ça c'est sûr.
Voilà, donc c'est un cas où on a pu agir sur les préférences sexuelles. Alors, par rapport aux femmes, je ne crois pas qu'il y aura un effet de mode ou une tendance massive, parce que justement, comme je disais, il n'y a pas de représentation du sexe masculin dans les images de la vie quotidienne. Et donc, le désir des femmes là-dessus n'est pas formaté. En revanche, il a, dans le passé en tout cas, beaucoup été formaté sur un certain dégoût ou un certain barrage par rapport aux zones génitales de l'homme en général. Et donc, ce que j'entends chez une série de femmes plutôt autour et au-delà de la quarantaine, c'est qu'elles trouvent ça vilain, le sexe de l'homme, elle trouve ça vilain, avec ou sans poils, quelle que soit sa taille, sa forme.
Au moins, avec des poils, ça le cache un peu, non?
Oh,
je sais pas.
Oui ou non, mais ça fait de toute façon sauvage, enfin, ça leur fait peur, quelque part. Par contre, chez les femmes plus à l'aise avec leurs désirs, ou chez les femmes plus jeunes, parce qu'il y a quand même un effet de génération, j'entends de plus en plus dire oui, moi j'aime regarder, je suis là, il a des couilles formidables, je peux pas me lasser de les caresser, de les regarder, ou lui il a un sexe d'une forme fantastique pour moi. Bon, mais de là à ce que il y ait une tendance, non. La seule façon pour vous de le savoir, ce sera de demander à vos partenaires si elles ont des goûts, des désirs particuliers, et vous apprendrez comme ça à la connaître.
Mais bon, si vous avez envie de vous raser, faites-le. Je crois que aujourd'hui, c'est quand même assez, c'est assez répandu. Oui, oui, non. Enfin, oui. Je veux dire, il n'y aura pas de surprise de la part d'une femme si elle vous découvre totalement sans poils, quoi.
Et puis, ce qui peut être bien, c'est de changer, c'est d'avoir deux options. Comme on peut changer de coiffure, changer de look, on peut aussi changer de look en bas.
Bien sûr, je me disais, bon, à un moment donné, c'était la mode d'avoir chez certaines femmes des formes de triangle ou des formes de jouer avec des petits trucs, et je voulais savoir.
Oui, le ticket de métro aussi.
Le ticket de métro, par exemple, et si chez l'homme, on pouvait s'amuser à faire des coupes ou autre, est-ce que les femmes rigoleraient plus ou est-ce que ça pourrait être un peu plus
sûr, je ne suis pas sûr que si vous voulez tenir en vert, ça fera rire les femmes.
Ouais. Bon, à l'heure du temps passé, ça devrait aller, mais bon, voilà, des petites décorations tribales, des petits trucs comme ça ou autre, ça pourrait être.
Si vous en avez envie, faites-le,
je crois. Mais quelle bonne idée! Mais moi, ça me paraît tout à fait super comme idée, ça. Parce que ce qu'on aime bien chez un homme, c'est qu'il prenne soin de lui, de sa personne, qu'il soit attirant et qu'on voit qu'il fait quelque chose pour ça. Et donc, un souci de coiffure, je dirais, au niveau des poils pubiens, ça me semble tout à fait charmant.
Bon.
Ben, allez-y, David.
Moi, j'ai une réponse. Ben, on va y aller.
Elisa Brune vous donne le feu vert. Alors, allez-y. Faites-vous une belle décoration. Un joli sapin de Noël. Voilà.
Ok, ben, écoutez, merci pour l'info, Elisa, et bonne émission.
Merci à vous, David. Le polyamour, c'est David qui a envie de nous en parler. Bonjour, David.
Bonjour Brigitte.
Vous avez 39 ans et vous vivez donc le polyamour, hein, c'est-à-dire que vous avez une femme, mais l'un et l'autre, vous pouvez vivre d'autres histoires, c'est bien ça?
Je fréquente une femme mariée dont je suis éperdument amoureux, qui me dit par ses actes, ses paroles, ses gestes, ses écrits, on s'est rendu compte très rapidement qu'on était fous amoureux l'un de l'autre.
Oui.
Et je ne demande pas, il n'y a rien qui ment vraiment dans notre relation. Elle est tombée malade, donc ça a un peu mis de distance entre nous. Elle a l'air de me dire que ça va mieux avec son mari. Et puis à côté de ça, bah, tous les jours, il y a des relances. Comment ça va? Comment ci? Comment ça? Et on entretient une relation tellement forte, qui va presque même, je dirais, au-delà de l'amour, que en fait, il se passe qu'on passe quelques moments ensemble, je suis son confident, elle m'a avoué des choses qu'elle n'a jamais avouées à son mari, etc. Mais depuis 10 mois qu'on se fréquente, la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'était il y a 6 mois, en fait.
Oui.
Et je ne sais pas comment elle vit ça, elle. Elle m'a clairement dit qu'elle aimait 2 hommes en même temps. Je ne sais pas comment elle peut le gérer. Et je ne sais pas non plus comment gérer ça, moi, de mon côté. Parce que la finalité, pour moi, c'est de faire ma vie avec elle, même si je suis prêt au pire, c'est-à-dire à passer le reste de ma vie à être son amant. Et puis voilà, et c'est, je fais face à une situation qui me rend triste, qui me rend exécrable avec tout le monde. Et je ne sais vraiment plus comment la gérer, ça part dans tous les sens.
Pas tellement, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sens, visiblement, puisque vous êtes en train d'échanger beaucoup, mais pas charnellement. En fait, vous êtes odieux parce que vous êtes en manque, vous n'avez pas votre sexualité se transforme en agressivité, puisqu'il n'y a plus de sexualité chez vous.
Ben oui, en fait oui, parce que justement je l'aime tellement que je suis absolument incapable de m'ouvrir une relation de quelque nature qu'elle soit, notamment sexuelle, avec une autre personne.
Mais ça vous lui avez dit que vous étiez en manque?
Justement, vous allez rire Brigitte, parce qu'il y a quelques jours...
Non, je ne crois pas que je vais rire, mais je vous écoute.
On s'est un petit peu disputé, parce que je lui ai dit je te sers de tout, je suis un amant, tu es amoureuse de moi, et en fait on fait tout ensemble sauf passer des moments de sexualité. Et là elle m'a dit on va prendre un nouveau départ tous les deux. Et d'habitude où j'ai 200 SMS par jour et une centaine de mails, depuis ce week-end qu'elle a passé en famille, j'ai quasiment plus de nouvelles. Alors est-ce que je dois y prendre bien, est-ce que je dois y prendre mal? Je suis complètement dans l'expectative et je dois avouer que là je suis vraiment à fleur de peau.
Oui, mais écoutez, David, le message, il est clair. Vous lui demandez autre chose qu'elle ne vous donne pas, c'est-à-dire du sexe, ce qui est assez, assez humain, hein, avoir envie d'une autre.
C'est légitime, vu la relation que nous entretenons, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous punit en ne vous envoyant plus de mails ni de SMS. Je veux dire, le message, il est clair. Hein, c'est si tu veux autre chose, tant pis pour toi, tu vas me perdre.
D'accord.
Je crois quelque part, c'est sa manière à elle de vous remettre au pas, si je puis dire. Mais il faut toujours se méfier d'une femme qui prétend vous aimer profondément, mais qui néglige un des
paramètres essentiels d'une relation de couple.
Exactement. Vous pouvez pas rester comme ça pendant. Ça fait 6 mois que vous restez à lui dire que vous l'aimez et vous n'avez pas de relation charnelle. Quelque part, si vous voulez, David, il y a presque une attitude masochiste de votre part. Vous êtes en train de vous faire du mal.
Vous avez tout à fait raison, oui.
David, je vous dis pas de cesser toute relation avec cette femme, mais il faut faire un travail un petit peu personnel pour comprendre pourquoi vous êtes aussi accroché à cette femme qui, depuis quelques mois, on va pas dire 6 mois, puisqu'elle a été malade, tout ça, on peut entendre ces choses-là. Mais en tout
bien
cas, depuis 2-3 mois, disons, elle ne vous donne même pas l'essentiel, parce que au fond, quand on est amoureux, vous êtes dans le stade amoureux, on a énormément besoin de rencontres charnelles.
Bien sûr.
Donc,
et ce
pourquoi...
qui me chagrine d'autant plus, c'est que chaque fois que je m'éloigne d'elle ou que je donne plus de nouvelles, elle fait cette démarche de revenir vers moi, en fait.
À mon avis, David...
Alors que moi, je commence très clairement à me faire une raison, à mon grand désespoir, d'ailleurs.
Alors, moi, je pense, David, que ce que vous devez réaliser, c'est que vous lui apportez quelque chose qui, semble-t-il, est essentiel pour elle. Vous êtes un très bon confident, sans doute.
Oui.
Donc, elle est ravie de vous avoir comme confident. Mais elle n'a plus envie de vous avoir comme amant. Alors, c'est à vous de savoir si vous pouvez faire une sorte d'échange. Vous savez, dans une relation, pour que ça dure, que ce soit une relation d'amis, une relation professionnelle, une relation amoureuse, il faut qu'il y ait un échange.
D'accord.
Bon, et là, pour l'instant, il n'y a plus d'échange. Vous lui donnez ce qu'elle attend de vous, c'est-à-dire une écoute et sans doute beaucoup
une
de...
discussions,
voilà,
des fleurs,
hein, donc,
etc.
Donc vous lui permettez d'avoir ce qu'elle attend de votre relation, mais elle ne vous donne rien en échange. En tout cas, elle ne vous donne pas ce que vous pourriez en attendre. C'est ça qu'il faut lui dire. Il faut lui dire. Moi, j'attends un minimum de tendresse, d'intimité et éventuellement de sexualité. Et si vous n'avez pas ça, c'est que quelque part la relation ne peut pas tenir.
Et malgré tout, quand je la vois, même seule, elle me voit, elle devient toute rouge. Je vois que c'est.
Mais peut-être que la...
C'est un truc qui est terrible ce qui se passe entre nous. C'est à la fois magnifique et terrible. C'est ce qui est tragique.
Non mais David, peut-être qu'elle s'est sentie coupable d'avoir une relation adultère. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse parler de polyamour dans son cas. Du coup, ensuite, elle tombe malade et elle a attribué sa maladie à sa culpabilité. Vous voyez, elle a peut-être fait un rapport entre le fait d'être malade et sa culpabilité de tromper son mari. Donc du coup, elle n'ose plus le tromper. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se passe. Peut-être qu'elle vous aime vraiment, mais qu'elle se sent trop coupable. Mais à ce moment-là, il faut qu'elle aille en parler à un thérapeute pour lever cette culpabilité. Mais visiblement, il faut quand même qu'elle comprenne que vous n'êtes pas heureux avec elle. Et si elle vous aime et qu'elle ne vous rend pas heureux, ben, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Voilà.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Et un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Erika qui nous dit « Je voulais faire une thérapie avec mon partenaire pour que nous améliorions justement notre communication qui est franchement assez déplorable dans mon couple. Mais malheureusement, mon partenaire ne veut absolument pas. Est-ce que j'aurais aimé la vie de Haruna? Est-ce que c'est un problème de valeur ?»
Oui, la communication, c'est une valeur. Vous avez beaucoup d'hommes qui n'ont pas du tout la parole, le verbe, enfin l'échange verbal comme valeur, mais pas du tout. Donc oui, bien sûr que la parole, la concision, la précision, le partage verbal, c'est une valeur, la communication.
Et là, c'est pareil, c'est dès le début qu'on sent si on peut communiquer sur des plans personnels ou si on communique que sur la pluie et le beau temps, ce qu'on a vu à la télé. Hein.
Mais bien sûr, et c'est pareil, au début on se dira « Oh, il est un peu taiseux, mais c'est pas grave ». Et puis au bout de 6 mois, on se dira, il est taiseux, je supporte pas, parce que moi j'ai besoin de parler. Ou il ridiculisera tout ce qui est thérapie et tout ce qui est choses comme ça. Voilà. Moi je dis pas que c'est bien ou non la thérapie, mais s'il y en a un qui est pour et l'autre qui dit que c'est des conneries.
En tout cas là, on voit bien que Erika a besoin de communiquer sur des plans plus psychologiques, personnels, et qu'elle est en face d'un homme qui voit pas l'intérêt de communiquer là-dessus. Donc c'est un problème de valeur.
Ça peut se gérer. Par exemple, si elle avait accepté au départ, si elle savait ça au départ et qu'elle dit « D'accord, je parlerai pas avec lui, mais je vais parler avec mon thérapeute ou avec des amis, etc. » Et
pourquoi
qu'elle gère,
pas,
pourquoi
bien
pas
sûr, bien
mais
sûr.
À partir du moment où elle a besoin de ça, elle en a besoin.
Mais est-ce qu'on peut pas à un moment donné aussi dire « Bon, bah, tant pis, j'ai pas ça avec lui, je vais m'organiser autrement, on n'est pas obligé. »
Exactement, mais c'est mieux au début, parce que s'organiser autrement, on va retomber dans le problème de Samy. Je vais y aller seule, alors s'il est jaloux. Donc le système de valeurs, il est interdépendant. Il y en a une qui va sur l'autre, etc. Elle peut dire « Oui, je vais sortir toute seule, et puis je vais parler avec des amis tous les soirs. » Mais est-ce que ça va être une de ses valeurs à lui aussi
RMC, la haie, l'amour et vous. RMC, la haie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
On écoute Frédéric Salman et on va grignoter, manger, dévorer avec lui. Finalement, quand on regarde la manière dont les gens se nourrissent, on en sait déjà beaucoup sur eux-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Salman?
Ah, complètement.
Vous êtes d'accord?
Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. C'est très simple, il suffit d'abord d'observer quelqu'un qui mange. La rapidité avec laquelle il va manger. Pour savoir déjà, vous regardez sa rapidité et vous regardez son tour de taille.
On saura s'il est éjaculateur précoce ou pas.
Ah oui, non, mais plein de choses, c'est terrible. D'abord, quelqu'un qui mange vite, prête son assiette, le nez dans l'assiette, très souvent, il est gros.
Oui, c'est vrai.
Il est gros, d'abord, quelque part, c'est physiologique, parce qu'on a deux façons de s'arrêter de manger, soit parce que les récepteurs dans l'estomac sont tendus, vous avez mangé tellement vite, tellement beaucoup, que vous en pouvez plus, vous avez déjà trop mangé. Par contre, si vous attendez un petit peu, 5 minutes, le message a le temps d'arriver au niveau du cerveau, ça stimule le centre de la satiété et on s'arrête.
D'où la nécessité de prendre le temps de manger déjà.
Attends, c'est fondamental. Vous savez, je vous donne un truc d'ailleurs au restaurant. Souvent, on vous demande, vous voulez pas commander un petit dessert en début de repas parce que c'est long à préparer. Taratata, c'est des menteurs. Parce qu'en fait,
ils savent très bien qu'on aura plus faim.
À la fin, on n'en voudra plus. Quand le plat tarde trop, on n'en a plus envie du tout.
C'est vrai.
Donc, simplement de prendre son temps et une certaine distance, c'est déjà une façon de mieux maîtriser ses pulsions. Je veux dire, de l'alimentation à la sexualité, je veux dire, il n'y a qu'un pas en plus.
Oui, ben ça, j'en suis convaincue. Donc, bien se nourrir, mais se nourrir en conscience, au fond, c'est peut-être ça aussi qui manque beaucoup. Et d'ailleurs, je trouve que notre société de consommation nous incite à manger beaucoup, à consommer, mais finalement, elle ne met pas assez en relief que la nourriture, c'est aussi une manière d'être bien avec soi, quoi.
Ben, c'est fondamental, parce que les gens oublient d'ailleurs le plaisir. Il faut être capable, quand on prend une bouchée, de savoir pourquoi on va prendre la suivante. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a frappé souvent à l'hôpital, quand on voit des gens qui ont été malades d'intoxication alimentaire, on leur dit qu'est-ce que vous avez mangé? Ah ben, je suis sûr que c'était le poisson, j'ai senti qu'il n'était pas bon. Vous l'avez fini? Oui. Donc, quelque part, il faut reprendre des vieux réflexes.
Oui.
Non, mais
oui.
C'est très important parce que, quelque part, la relation à l'alimentation, de retrouver le goût des choses, de pourquoi on va manger, voir des gens qui se mettent à table et qui n'ont pas faim, à quoi ça sert? Il faut reprendre sa... Vous savez, le problème aujourd'hui qu'on a en alimentation, c'est pas le manque, c'est l'excès. En 1850, on consommait 5 kilos de sucre par habitant et par an. Aujourd'hui, imaginez 35 kilos par habitant et par an. Et ben, notre organisme, il sait gérer le manque, mais il sait pas gérer l'excès.
Oui, le sucre n'est pas bon pour... L'excès n'est pas bon pour notre organisme.
Ah non, pas du tout. L'excès, c'est un accélérateur du vieillissement. C'est vraiment la porte d'entrée pour beaucoup d'ennuis. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a des façons d'essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure aussi. Donc, l'alimentation... C'est pas quelque chose de systématique, de rapide. Il faut réapprendre à s'alimenter autrement. J'explique que, vous savez, c'est très intéressant cette histoire. On s'est aperçu que les gens qui sautent un repas, mettons, qui jeûnent une fois par semaine, ça représente 16 heures. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. Contrairement aux idées reçues. Ça, c'est très intéressant parce que on s'est aperçu que chez les souris, si on les fait jeûner un jour par semaine, ben, elles font 20% de tumeurs cancéreuses en moins. Alors, en fait, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules. Vous voyez ce que ça donne? Et le risque d'erreur de copie de ces cellules augmente avec l'âge. Le risque d'erreur, c'est des cancers, Alzheimer, etc. Eh bien, quand on jeûne une fois par semaine, mais 16 heures, c'est pas très long, on renforce son ADN, on diminue le nombre d'erreurs de copie. Les gens se sentent moins fatigués, plus toniques, le teint plus clair. Enfin, c'est une expérience intéressante à faire si le médecin traitant est d'accord.
Julia est avec nous et j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup d'appels par rapport justement à la nourriture et à la relation à l'autre. Bonjour Julia.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Frédéric.
Bonjour Julia.
Vous avez 24 ans et vous avez besoin de faire attention à votre alimentation pour séduire. Dites-nous tout.
Alors, besoin, disons que c'est plus, comme vous disiez, en fait, c'est assez lié à la philosophie qu'on a à la relation à l'autre, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, l'alimentation, et que je fais beaucoup ressortir, qui se ressent dans mon rapport aux autres, dans la manière que j'ai de sortir avec eux, de profiter des moments qu'on a, de préparer un repas, voilà, avec mes amis, avec mon copain. En famille, je pense que c'est quelque chose qui m'a été transmis de manière non dite, mais en fait en voyant ma mère, ma grand-mère, évidemment, préparer pour avoir un moment de partage. Et c'est vrai que c'est aussi un thème qui m'importe beaucoup, puisque moi je travaille pour l'industrie agroalimentaire, mais par ailleurs, c'est vrai qu'on est dans une société d'opulence, et je crois que c'est vraiment notre responsabilité individuelle de nous apprendre à être lent dans notre façon de choisir, dans notre façon de consommer, le rapport à l'autre, plutôt que de se dépêcher. On est tout le temps en train de se dépêcher. Et je crois que souvent, quand on voit justement les gens qui mangent la tête dans leur assiette, c'est des gens qui, ben, souvent, qui sont seuls, qui déjeunent seuls et qui, justement, qui sans doute détestent ça. Et c'est assez marrant, mais je crois qu'on y gagnerait à être bien avec soi, déjà, être bien en solo, pas forcément dans la solitude, mais d'être bien voilà, pour soi et avec soi.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Julia, c'est au fond, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, je vous pose la question, Frédéric Salman, qui sont capables, étant seuls à déjeuner chez eux tranquillement, ou même, tiens, prenons plutôt à dîner un soir chez eux tranquillement, sont capables de se prendre soin d'eux et de se faire un vrai repas sympathique sans manger n'importe comment devant la télé. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en sont capables? Je suis pas sûre, moi.
Écoutez, il y a les deux. Il y a la personne qui va un peu se détester, il y a certains qui prennent leur organisme pour une poubelle, qui avalent n'importe quoi, n'importe comment, qui mangent de la crasse, qui se font du mal et qui le savent. Mais globalement, il y a aussi une autre solution, c'est de se mettre la table pour soi-même, de s'asseoir, de se préparer des plats. C'est déjà une façon de s'aimer, et quand on s'aime soi-même, on va aussi aimer les autres. Donc quelque part, la démarche, un plat cuisiné pour quelqu'un, ça peut être aussi des vrais mots d'amour. C'est important, on transmet quelque chose. Faire la cuisine ensemble, c'est quelque chose de formidable aussi. D'abord parce qu'on va apprendre à cuisiner autrement.
Oui, c'est ludique finalement de faire la cuisine
ludique.
Ensemble. Oui.
On dit qu'il faut manger peu salé, mais il suffit. On met pas de sel, on compense avec des herbes, avec des tas de choses. On va manger plus sain, il y aura plus de parfums. C'est une façon d'échanger. C'est pour ça que le rituel de l'alimentation en échangeant est quelque chose de formidablement important. Moi, j'aime pas que les gens soient en train de déjeuner devant la télé parce qu'ils savent plus ce qu'ils mangent non plus. Il faut échanger, il faut parler. Et sinon, si vous savez pas ce que vous mangez, vous allez manger trop. Et vous abîmez.
Et trop vite. Et en même temps, ce que dit Julia est intéressant. On voit bien que c'est dès l'enfance qu'on est imprégné de la manière dont il faut se nourrir. Et donc, ben, vis-à-vis de ses enfants, il faut déjà être très épicurien.
Ah ben oui, si on ne leur apprend pas le plaisir, ils vont complètement être perdus à un moment donné. C'est-à-dire que le plaisir, c'est une régulation de l'alimentation. Vous savez, quand quelqu'un a pas retrouvé son plaisir, il va cavaler tout le temps pour le rechercher ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a des liens très importants entre sexualité et alimentation. Si vous avez vraiment eu du plaisir en mangeant, eh bien, vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'est aperçu d'ailleurs que quand on donne, c'est paradoxal, un coupe-faim au petit déjeuner, ben j'en ai un très simple, c'est de prendre un dessert. Ben on s'est aperçu que quand les gens prennent un dessert le matin, et ben ils ont moins de pulsions dans la journée, comme s'ils avaient une sensation de plaisir initiale.
Ils ont eu leur gâterie.
Il y a plein de coupe-faim naturels très puissants qui viennent tout bêtement de l'alimentation sans passer par le médicament. C'est pour ça que la relation au plaisir est fondamentale. C'est un vrai régulateur au niveau du poids et on l'oublie trop souvent.
Merci Julia, en tout cas, de nous avoir appelé. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Brigitte.
Vous avez 31 ans, vous êtes en couple depuis 6 ans, hein, c'est ça?
C'est ça.
Et alors au début, il était formidable, plein, très attentionné. Et aujourd'hui, plus tellement, hein, c'est ça?
Exactement, ça s'est estompé, on va dire, après la première année.
Dès que vous vous êtes installés ensemble, par exemple?
Alors, pas du tout. En fait, au début de notre relation, je sortais moi-même d'une relation avec un autre homme qui était une relation passionnelle. Mmh. Donc, j'ai eu assez de mal à me défaire de cet homme. Et mon conjoint actuel a dû batailler pour me garder, entre guillemets. Donc, il était vraiment irréprochable. J'ai absolument rien à me le reprocher durant cette première année. Sauf que lorsque je me suis mise en tête que bon, c'était bien terminé et que j'ai voulu m'investir dans notre relation, mon conjoint a eu une sorte de blocage. Il me dit que je lui en ai trop fait voir pendant un an. J'étais limite méchante, hein, je le reconnais, j'ai beaucoup de tort de cette première année. Et du coup, aujourd'hui, il me dit qu'il ne peut pas oublier ça et qu'il n'y arrive pas, que c'est au-delà de ses forces. Et du coup, toutes les attentions qu'il avait pu avoir la première année, c'est terminé. Et ça fait maintenant 5 ans que j'essaye de retrouver...
D'accord, mais il est plus que temps de réagir. Je pense que vous auriez dû réagir beaucoup plus vite. Marie, là je pense qu'il faut vous faire aider. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il vous fait payer une attitude que pourtant il acceptait et qui lui a fait même redoubler de gentillesse? Donc là, on voit bien qu'il y a des tas de choses qui ont été des enjeux de réparation de ses propres problèmes, de votre propre problème. Enfin, vous voyez, si vous avez envie de rester ensemble, si votre couple quelque part vous semble important, faites-vous aider parce que là, il y a des choses à comprendre.
Bah alors justement, je en ai déjà parlé. Moi, j'aimerais vraiment qu'on se fasse aider, car je reconnais que j'ai mes torts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis pas du tout en train de dire qu'il est entièrement fautif. Nous avons nos torts tous les deux. Maintenant, je ne sais pas du tout vers quel spécialiste m'orienter, qui aller voir, à qui demander de l'aide.
Oui, mais là on est vraiment dans quelque chose d'assez classique. Hein. Vous allez voir un spécialiste du couple. Et c'est même pas un problème de sexo. Hein. Mais arrêtez de dire j'ai des torts, il a des torts. Vous voyez, moi je pense que quand on part sur cette idée qu'on est fautif, qu'on a des torts, on n'a déjà pas tout compris. Bon, vous avez eu vous étiez en souffrance quand vous l'avez rencontré. Lui-même a ensuite peut-être souffert de votre comportement. Donc on n'est pas fautif de ça, voyez.
Oui, bien sûr.
Hein, et c'est important parce que dès qu'on se met dans des positions de coupable ou de culpabilité, on essaye de culpabiliser l'autre, on peut pas avoir une compréhension réelle, voyez. Moi, je pense que ce qui est important d'abord dans un couple, c'est de s'entendre, de reconnaître qu'on a fait souffrir l'autre. Et quand on reconnaît déjà la souffrance de l'autre, ça apaise un peu la relation. Mm-hmm. Et puis ensuite, il faut voir qu'est-ce qu'on a envie de construire encore ensemble, et puis on tourne la page.
parce qu'aujourd'hui on s'entend bien, pour moi c'est ce que j'arrête pas de lui dire, pour moi on est en colocation, c'est vraiment ça, on a un enfant de très jeune, on ferait vraiment une colocation, il s'occupe très bien du bébé, il y a pas de problème, par contre pour moi on n'est plus un couple. Depuis même avant, on va dire avant le bébé, il y a un problème à ce niveau-là. On est de très bons amis. Honnêtement, moi je le perçois comme ça. Maintenant, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il y a de l'amour. Je l'aime également, sinon j'en serais pas là. Maintenant, je sais pas trop comment faire pour retrouver mon homme et pas le père de mon enfant simplement, quoi.
Oui, donc il est possible aussi que la sexualité, pour l'un comme pour l'autre, soit quelque chose d'assez menaçant. Menaçant dans le sens où quand on est en colocation, hein, en quelque sorte, on est dans des relations qui ne sont finalement plus du tout sexuées. On est deux copains ou deux copines, hein, comme vous voulez. Moi, j'ai pas de...
C'est ça.
Oui, mais ça montre bien que, quelque part, votre identité sexuelle, pour l'un comme pour l'autre, est menaçante.
Tout à fait.
Vous voyez, et ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi comprendre. Finalement, se mettre dans une relation sexuelle vis-à-vis de l'autre, c'est là où on devient, où on peut menacer l'autre. Tandis que quand on est entre copains ou entre copines, on se menace beaucoup moins. Vous voyez, la sexualité, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui nous met dans des zones un petit peu plus obscures de nous-mêmes. Et parfois, en effet, dans un couple, on la met complètement de côté.
C'est tout à fait ce qui s'est produit. Donc, on est quand même jeune. J'ai pas du tout envie de tirer un trait sur ma sexualité. Je pense que lui non plus. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de désir, plus du tout d'envie.
Oui, vous l'avez mis de côté. Mais pourquoi vous l'avez mis de côté? C'est ça que vous pouvez aller chercher chez un. Alors là, du coup, il faudrait peut-être plutôt un sexothérapeute. Mais pourquoi vous l'avez mis de côté? Qu'est-ce que vous risquez d'essayer ensemble, de vous redécouvrir au niveau du corps et sexuellement?
Mais je pense qu'on a une gêne mutuelle, c'est-à-dire qu'il y en a aucun des deux qui a envie d'aller vers l'autre de peur de se faire jeter. Vous voyez, on en est arrivé à ce stade-là, en fait. Moi, j'ai l'impression que, il me donne l'impression des fois, il me dit clairement, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas, mais moi, j'ai du mal à y croire. Je pense que, à force, il risque d'aller
mais
voir
vous avez, ailleurs. Marie, vous avez dit le mot que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. Il y a de la peur.
Oui, c'est ça.
Oui, mais il y a de la peur, mais c'est cette peur-là, il faut soit vous essayer ensemble de la dépasser en vous obligeant à vous retrouver, alors peut-être d'abord pour des caresses, pour des fleurs, pour essayer tout simplement de vous apprivoiser l'un l'autre. Qu'est-ce que vous risquez d'avoir du plaisir, c'est tout, hein. Bon, et si vraiment vous n'y arrivez pas, il faut vous faire aider.
Ouais. Donc vous, si jamais, quel genre de praticien vous nous recommandez?
En l'occurrence, on est vraiment dans une question de sexualité. Donc il faut aller voir un sexothérapeute.
D'accord.
Alors je le précise parce que je reçois beaucoup de mails de personnes qui me demandent des adresses dans leur région. Alors d'abord, je ne connais pas tous les sexothérapeutes de France, hein, bien sûr. Il y a deux solutions majeures, hein, pour trouver un thérapeute sexo. Soit vous vous adressez au CHU le plus proche de chez vous et vous demandez une adresse, hein. En général, ils ont la liste des sexothérapeutes qui sont dans la région. Ou alors vous allez sur le site de l'AIUS, AIUS, qui est donc un site de sexothérapeute reconnu. Voilà.
D'accord, très bien.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Et un petit tour du côté de rmc.fr. Christian Jamin, la fameuse question qui arrive toujours dès qu'on parle de contraception. C'est Patricia qui nous dit j'ai l'impression, depuis que j'ai pris la décision de me faire poser un stérilet, que j'ai beaucoup moins de plaisir. Est-ce que c'est dû à ça? Et est-ce que il est possible, c'est ce que dit en tout cas mon partenaire, que ça soit de temps en temps, que de temps en temps il puisse le sentir?
Il y a deux questions différentes. La première, est-ce que le stérilet non hormonal, si j'ai bien compris, peut jouer sur le désir sexuel? Je ne crois pas du tout. en dehors de effectivement du vécu qu'on en
oui,
a.
Oui, l'aspect psychologique.
Quand on fait que le partenaire sente le fil du stérilet, ça c'est tout à fait possible. D'abord, ça dépend de la façon dont le fil a été coupé. Quand ils sont coupés trop courts,
ça pique un peu.
Ça pique, ça c'est sûr. Et puis le gland, comme on l'a dit au début de l'émission, est particulièrement sensible et on peut sentir le fil du stérilet quand on a une verge assez longue qui vient effectivement se frotter sur ce fil. Ça, c'est rarissime, mais ça existe. Et donc après, on peut couper le fil de manière encore plus courte à l'intérieur même du col. Mais donc là, ça, c'est parfait. Mais le problème, c'est que pour l'enlever, après, ça peut être assez compliqué. Donc, d'une manière générale, moi, ma technique consiste plutôt à laisser le fil long, de manière à pouvoir le sortir, le stérilet facilement. Et ça n'est que s'il y a une plainte qu'on le coupe très court à l'intérieur du col. Alors que d'autres coupent le fil à l'intérieur du col, mais ça nous donne beaucoup de difficultés pour les enlever.
Voilà,
très technique.
Non, mais c'est important. Et ce qui est possible, Patricia, c'est que si votre partenaire vous a dit qu'il sentait un peu le fil, ça a pu vous couper un peu vos effets et du coup, le plaisir est moindre.
RMC, Laëlle, l'amour et vous, Brigitte Laëlle.
Je vous propose d'écouter Michael. Il s'adressait également à notre sociologue, Janine Mossu-Labo, qui était à mes côtés ce jour-là.
Bonjour Brigitte, bonjour Janine.
Bonjour.
Oui, je suis très heureux de pouvoir vous avoir au téléphone.
Merci.
Donc, alors nous, dans notre couple, en fait, c'est-à-dire que l'infidélité, nous, elle n'a jamais existé. Mais ma concubine, espérait d'autres pratiques qu'on pouvait avoir ensemble. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu bisexuelle. Et donc, elle voulait avoir des pratiques avec des femmes. Et naturellement, moi, je ne pouvais pas lui donner cette pratique. Et donc, c'est elle qui m'a proposé d'aller voir d'autres personnes. Donc, moi, au départ, j'étais pas spécialement pour, parce que moi, j'avais d'autres envies, mais finalement, ma concubine me donnait ce que j'attendais. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a plus proposé d'aller, on va voir des professionnels pour assouvir nos fantasmes, mais surtout les siens, en fait.
Donc, d'accord, mais vous y allez ensemble? C'est-à-dire, vous allez voir ensemble tous les deux la même escort girl?
Non.
Non, non, justement. D'accord.
Ouais, séparément. Dans la même soirée, si vous voulez, mais séparément. Donc, on loue deux chambres d'hôtel différentes et on.
Ah oui, c'est drôle, c'est original en tout cas. Oui.
Oui. Moi, comme je vous dis, j'étais pas spécialement partant au départ parce que je suis quelqu'un d'un petit peu réservé. C'est pour ça que j'ai un petit peu cette voix tremblante avec vous au téléphone. Mais voilà, je suis plutôt quelqu'un de réservé et donc c'est plutôt elle qui me demandait autre chose et. Et voilà quoi, donc pour pouvoir la satisfaire et puis la garder, parce qu'on est vraiment très fusionnels tous les deux, on s'aime, il n'y a pas de souci, mais enfin, voilà, c'est plus elle qui m'a demandé de...
Mais vous en êtes, vous êtes satisfait, vous en tirez des bénéfices.
Oui, tout à fait, ouais,
oui.
Tout à fait,
enfin,
oui, après, elle m'aurait demandé ça, on aurait peut-être jamais franchi le pas, comme on dit, mais...
C'est elle qui est à l'initiative de cette situation,
fait, ouais.
Mais aujourd'hui, vous êtes satisfait, ça vous procure du plaisir.
Bah, moi, ça me procure du plaisir, parce que j'ai pu découvrir d'autres pratiques aussi sexuelles que ma concubine ne voulait pas me donner. Donc, c'est des pratiques anales, c'est des choses que je ne peux pas faire avec ma concubine et elle.
Et est-ce que vous vous racontez ce qui se passe ou ça reste
Non, on fait ça à peu près une fois par mois à deux fois par mois, on va dire, suivant, parce que c'est quand même un budget. Donc oui, on se raconte justement, et c'est ça qui est aussi intéressant, parce qu'on arrive à dialoguer là-dessus, à me dire ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a pu lui procurer et ce que je ne peux lui procurer, et voilà, donc c'est un dialogue sur lequel on apprend, mais malheureusement moi je pourrais jamais lui donner ce que les escortes peuvent lui donner, quoi.
Non, mais en même temps vous n'êtes pas jaloux de ce qu'elle a, le plaisir qu'elle reçoit de par ses femmes?
Non, je suis pas jaloux. Après, ce qui est un petit peu particulier, c'est que ma concubine voudrait qu'on aille un peu dans des clubs échangistes. Pour justement ne plus avoir...
Oui, vous avez peur de l'escalade, en fait.
Ben moi, je suis pas jaloux, si vous voulez, mais j'ai peur d'être en face et de
pas péter support. Un câble. Oui. Sans... Mais je crois, Mickaël, que c'est ce que je donne toujours comme conseil. Hein. Vous dites ça, c'est bien. Ce qu'on fait là, ça me va bien. Je veux pas autre chose. Et puis c'est tout. Hein. Soyez ouais. ferme et clair.
Ouais. Après, ouais. moi, j'aimerais bien pouvoir lui donner. Ce qu'elle attend sans passer par une escorte, mais
Mickaël, on peut jamais tout donner à l'autre.
Bah, c'est dommage, ouais, c'est dommage de pouvoir dire ça, quoi, parce que moi, dans une relation, dans ma relation, j'aimerais pouvoir tout lui donner, quoi. Est-ce que je lui donne la satisfaction complètement, quoi. Donc après,
mais vous pouvez pas. Mais je crois que c'est
à ça, on va dire. Mais
oui, mais j'entends bien. Je sentais bien depuis le début de votre témoignage qu'il y avait quand même une insatisfaction quelque part. Hein. On sentait, Janine Mosquée,
oui, on va dire. Enfin oui, enfin une insatisfaction, oui. Et puis c'est une gêne aussi de savoir qu'elle va aller voir quelqu'un d'autre pour lui donner ce que moi je peux pas lui donner en fait. C'est plutôt ce sentiment.
Mais là c'est par rapport à vous-même qu'il faut travailler, c'est pas par rapport à elle.
Non, il faut
travailler par rapport
au travail pour accepter.
J'ai bien compris. J'ai bien compris, mais il faut travailler sur votre problème d'idéal. Dans une relation, quelle qu'elle soit, aussi belle soit-elle, on ne donnera jamais tout. On ne peut pas combler tout ce que veut notre partenaire.
Et puis je crois aussi qu'on ne doit pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc c'est aussi à vous de savoir jusqu'où vous voulez aller. Et si à un moment, quelque chose vous gêne, dire non, ça, bon, j'ai pas envie, je peux pas. Il faut être libre aussi dans une relation comme ça.
Ouais, bien entendu, mais j'ai un petit peu de mal à dire non parce que
parce que vous avez trop peur de la perdre.
Tout à fait.
Et oui.
C'est exactement ça. Ouais.
Ben oui, Mickaël, mais vous savez que nos peurs parfois nous entraînent à faire des choses qu'on ne supporte plus. Alors il faut faire attention à ça. Respectez-vous. Et si vous vous respectez, si vous êtes fidèle à vous-même, elle continuera à vous aimer et elle tiendra à vous.
D'accord.
Hein? Il faut pas changer, hein. Restez tel que vous êtes et dites non à ce qui ne vous convient pas.
D'accord.
Et puis, la peur de la perdre, c'est normal quand on aime quelqu'un.
Oui.
Il faut vivre l'instant présent. Votre peur, c'est quoi? C'est l'avenir. L'avenir, on ne sait pas de quoi il est fait demain. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
L'avenir, je vois à deux, quoi. Donc.
Voyez le présent à deux et cessez de voir l'avenir, de penser à l'avenir. Comme ça, vous serez heureux puisque vous êtes avec elle.
Mais je le suis, enfin. Hein, je suis quoi. Après, bon, des fois c'est plus difficile quand on a quand on fait nos petites soirées comme ça. C'est vrai que même si moi de mon côté je prends du plaisir, hein, faut être très honnête, je prends du plaisir avec les escortes avec qui je suis.
Vous êtes heureux, vous êtes heureux physiquement, mais moralement vous êtes un peu stressé quand même. Hein.
C'est ça, c'est exactement ça. Physiquement, je prends beaucoup de plaisir. Après, je me dis que le plaisir.
Vous en passeriez bien de ce plaisir-là si vous pouviez. Vous avez accepté ce deal, hein, bonhomme à l'an, c'est pas si mal. N'en acceptez pas d'autres, visiblement, je crois. Hein, c'est ce qu'on peut dire, Monsieur Lavoux. Merci, Mickaël, en tout cas.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.